Aujourd'hui donc, nous recevons le professeur Daniel Metzger. Daniel Metzger est né en 1961 à Strasbourg. Il est biologiste moléculaire centré sur la génétique de la souris. Il est directeur de recherche au CNRS, membre de l'Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire à Strasbourg, qui est l'IGBMC, qui dépend à la fois du CNRS, de l'INSERM, de l'Université Louis Pasteur et du Collège de France. Il a reçu en 1990 le prix Jeannine Courrier de l'Académie des sciences et il a publié de manière régulière dans des revues spécialisées comme Nature et Science, etc. Voilà, donc monsieur Daniel Metzger, je vous laisse la parole pour 50 minutes, après quoi il y aura 20 minutes de débat. Merci beaucoup.
Merci. Donc je remercie d'abord les organisateurs pour l'invitation et je suis désolé auprès du public qui attendait Pierre Chambon et qui se trouve maintenant en face de moi. Tout d'abord, une précision, je ne suis pas professeur, je suis chercheur au CNRS et je trouve que c'est une très bonne initiative d'avoir organisé ce type de conférence parce que c'est vrai qu'en général, il y a un monde entre les laboratoires de recherche et le public. Et je vais essayer justement d'établir un lien pour essayer de mieux expliquer ce qui se passe dans les laboratoires actuellement pour avoir une vue un peu plus large, et notamment de ce que c'est que la génétique. Alors bien sûr, c'est un exercice difficile, notamment pour moi, qui ne suis pas habitué d'être sous les feux de la rampe ou en face de caméra, et notamment parce que j'ai eu relativement peu de temps pour préparer cette conférence. Et donc je m'excuse auprès du public également pour la qualité des transparents qui ne sont certainement pas parfaits. Voilà. Un des objectifs de la biologie est de comprendre comment, à partir d'une cellule, on arrive à développer un organisme complexe comme l'homme. Alors, il est clair maintenant qu'il y a un programme et que ce programme est lié à l'ADN qui est présent dans les noyaux. Et donc, l'objectif est de comprendre comment on arrive à avoir des cellules différentes qui vont avoir des fonctions différentes, notamment en exprimant des protéines différentes. Et une des approches pour étudier cette complexité est d'utiliser la transgénèse ou la mutagénèse pour essayer justement donc, de comprendre ces mécanismes complexes. D'autre part, ce qu'on aimerait également, c'est créer des modèles animaux pour des pathologies humaines, d'une part pour proposer des diagnostics, et d'autre part, pour mettre au point des thérapies. Enfin, comme vous allez le voir, la transgénèse va également permettre de produire des molécules biologiques intéressantes. Alors, tout d'abord, je vais faire quelques rappels et vous montrer que l'ADN est vraiment le support de l'information. Alors l'ADN, c'est donc cette molécule double brin située dans le noyau. Et cette molécule comporte...
Excusez-nous,
oui.
Si vous pourriez mettre au point...
Oui.
Ah. Mais
ça va être difficile, je pense. C'est mieux ?
Oui.
Ça va être difficile.
Ouais, télé, ouais. Il y a mieux.
Appuie sur auto maintenant.
Auto ?
Auto, là.
Ouais. Avance encore plus.
Voilà. Voilà. Ça serait transparent.
Ok.
Monsieur Pierre Chambon, on va peut-être mieux que, je sais pas.
Non. Non, mais le problème, c'est qu'on m'avait précisé, j'avais une lettre, donc il fallait faire des transparents spécifiquement et pas de diapositives.
C'est pas trop.
Et donc, on est maintenant avec ce support, il faudra faire avec. Je vais essayer quand même, s'il y a des choses pas claires, de toute façon, vous pouvez interrompre, et je vais essayer de préciser. Donc, on a donc cette molécule d'ADN qui contient cette information, et donc cette information est constituée par des unités, des gènes. Okay. Et donc ces gènes sont constitués de séquences qui permettent de produire la protéine, d'une part, et également de séquences régulatrices qu'on appelle promoteurs enhancers. Et donc il y a une machinerie cellulaire qui permet de passer de cette information donc, du gène à ce qu'on appelle l'ARN messager, qui lui, en passant d'abord par un ARN pré-messager, également à l'aide d'une machinerie cellulaire qui permet d'aboutir à cette molécule qui est maintenant une molécule monocaténaire, et par une suite à la traduction de cet ARN messager qui va en fait reconnaître les codons, c'est-à-dire par exemple un codon ATG, donc cet ADN est constitué de quatre éléments de base, les bases A, T, G et C, va permettre donc de produire une protéine, qui est donc un polypeptide et qui va avoir une activité enzymatique ou va être une protéine structurale ou une molécule de signalisation. Et donc, tout le problème va être de pouvoir réguler cette expression, étant donné que toutes les cellules contiennent la même information, mais que les cellules après vont avoir des fonctions hautement différentes. Donc, à partir des gènes, donc l'ADN, on va pouvoir, par ce mécanisme de contrôle de l'expression génétique, la transcription va permettre de faire les messagers, la traduction, les protéines. Et là, je vais définir maintenant je vais vous donner deux définitions. Donc, le génotype désigne l'information génétique caractéristique d'un individu. Et donc, il est contenu dans le génome. Le phénotype, lui, est constitué des caractéristiques physiques, visibles d'un individu ou d'un organisme, telles qu'elles sont déterminées par sa constitution génétique. Et donc, un des objectifs va être d'étudier la fonction de ces gènes ou de ces protéines. Et donc, différentes technologies permettent d'étudier cette fonction. Il y a une part de la biochimie qui va permettre d'étudier la structure, la fonction de ces protéines, la pharmacologie, c'est-à-dire interférer sur la fonction de protéines par des ligands et pour voir quelle est la fonction de cette protéine, ou bien alors la voie génétique. Et là, je vais principalement me concentrer sur la mutagénèse et la transgénèse, c'est-à-dire interférer directement sur les gènes pour essayer de comprendre la fonction de ces gènes. Et ceci peut être réalisé d'une part dans des lignées cellulaires, ou bien alors sur des animaux, notamment la drosophile, le nématode, le poulet ou la souris. Alors, ce qu'il faut bien réaliser, c'est que le génome humain est très complexe. Il contient environ 100 000 à 150 000 gènes, ce qui est constitué par 6 10 puissance 9 paires de bases, et ce qui donne en fait une molécule de 2 mètres de longueur. En fait, chez l'homme, on a 22 paires de chromosomes, et plus les chromosomes sexuels, et donc la longueur moyenne d'un chromosome est de 4 cm environ. Et ceci est contenu dans le noyau donc, de la cellule de 6 microns de diamètre, ce qui implique donc une forte compaction de cet ADN, étant donné que la longueur moyenne d'un chromosome en métaphase est de 4 microns. Alors là, je crains que ce soit vraiment illisible, mais dans tous les cas, on va passer assez rapidement là-dessus. C'est-à-dire, on a ici ce chromosome, donc il y a cette longueur de 4 microns, et l'ADN a une longueur de 2,7 cm. Et donc, il y a différents niveaux de compaction qui impliquent un certain nombre de protéines. D'une part, donc, l'ADN bicaténaire va d'abord former un nucléosome, qui lui-même va être super enroulé pour former donc ce chromosome en métaphase de cette taille de 4 microns. Et donc, Alors, ce qui est important de réaliser, c'est qu'en l'espace de 5 ans, on va avoir accès à la séquence complète du génome humain et de souris. Et donc, ceci permettra de mettre en évidence des dizaines de milliers de gènes inconnus, dont il faudra trouver la fonction, à la fois au niveau moléculaire, cellulaire, dans les tissus, et également sur l'organisme entier. Et donc, pour ce faire, la génomique fonctionnelle va être très importante. Donc là, on appliquera les techniques classiques de biologie et de génétique moléculaire, également la bioinformatique pour essayer de comparer les molécules, trier les molécules, et enfin, la biologie intégrative, c'est-à-dire la recherche de la fonction physiologique des gènes au niveau de l'organisme entier. Et pour cette partie, la transgénèse va être d'une importance considérable. Donc, pour essayer de comprendre la fonction de ces gènes, il est important donc de réaliser des études génétiques diverses. Je vais vous donner tout à l'heure des exemples. Et actuellement, la souris est un très bon modèle. Pourquoi ? D'une part, parce que c'est un mammifère. D'autre part, parce que la taille du génome humain et de souris est similaire. Le nombre de gènes est également similaire. En de plus, l'élevage de la souris est relativement facile. Les coûts ne sont pas trop élevés. Il y a une période de gestation relativement courte, environ 3 semaines. Et la maturité sexuelle est également assez rapide, 6 à 8 semaines. Et de plus, on arrive, dans cet organisme, de réaliser des techniques de transgénèse, que j'appellerai par la suite transgénèse classique. Je vais vous définir un peu plus tard ce que ça représente. Et également, l'invalidation spécifique de gènes par des techniques de recombinaison homologue. Alors, que va nous apporter la génétique ? Donc, je vous ai dit que... Pardon ? Et on va laisser comme ça. Donc, lorsqu'on se trouve en face d'une maladie génétique ou acquise, bon, il est important d'avoir accès justement aux gènes. D'une part, pour pouvoir émettre un diagnostic, et d'autre part, l'accès aux gènes permettra de faciliter la mise en place d'une thérapie. D'autre part, donc, il y a un certain nombre de labos qui font vraiment de la recherche fondamentale et qui s'intéressent aux gènes de souris. L'intérêt d'avoir ces gènes de souris, c'est de pouvoir voir s'il y a donc des homologues chez l'humain. Et étant donné qu'on a ces outils de génétique, chez la souris, on pourra réaliser des mutations spécifiques, d'une part pour reproduire la mutation éventuellement qui se trouve dans la maladie, d'autre part, pour essayer de déterminer la fonction de cette protéine. Donc, on peut réaliser les mutations spécifiques et avoir, à partir du gène qu'on aura isolé, le modifier et établir une souris qui porte spécifiquement cette mutation. D'autre part, pour essayer de déterminer la fonction de ce gène, on va pouvoir l'exprimer soit à des niveaux plus élevés dans les types cellulaires où il est normalement exprimé, ou bien alors l'exprimer dans des tissus où normalement il n'est pas exprimé. On peut également exprimer le gène muté de cette façon, et on espère ainsi induire donc un phénotype chez la souris qui reflète en fait la maladie humaine. Une fois qu'on a ce phénotype, donc on aura une idée sur la fonction de ce gène, et également utiliser ces souris pour réaliser des essais thérapeutiques, pour proposer une thérapie pour l'un. Alors, quand je dis souris transgénique, qu'est-ce que j'entends ? Alors, tout d'abord, la transgénèse classique, ça va être l'insertion d'un fragment d'ADN dans le génome et expression de ce morceau d'ADN. D'autre part, par des techniques de recombinaisons homologues, on va pouvoir modifier spécifiquement un gène, c'est-à-dire remplacer un gène par un gène qui porte une mutation déterminée. Enfin, ce qu'on aimerait pouvoir faire, c'est modifier spécifiquement un gène chez la souris, non seulement dans l'organisme entier, mais dans un type cellulaire donné et à un moment choisi. Et actuellement, vous allez voir que les derniers avancements des travaux permettent maintenant d'espérer de réaliser ce type de mutation très précise. Alors, dans ce qu'on appelle transgénèse classique, il faut donc tout d'abord cloner le gène qu'on veut étudier, donc ce qui nécessite des manipulations de l'ADN in vitro, et par la suite, réintroduire cet ADN chez la souris, soit dans les cellules somatiques, mais également, en général, dans des lignées germinales, pour établir des lignées de souris qui portent ce transgène. Alors, comment réalise-t-on une souris transgénique? Comme je vous l'ai dit, il faut donc d'abord isoler le gène qu'on va vouloir insérer, qu'on va vouloir greffer donc dans cette souris, en réalisant un certain nombre de manipulations in vitro. Et donc, ce mini-gène va donc être injecté dans le pronucléus mâle, c'est-à-dire dans l'œuf fécondé de la souris. Cet œuf fécondé va ensuite être réimplanté dans une souris pseudo-gestante. Et donc, on va avoir des souriceaux issus donc, de ces œufs modifiés qu'il faudra analyser et vérifier si oui ou non on a la présence de ce transgène d'une part et d'autre part si ce transgène exprime la protéine. Alors, ceci est un schéma très simple, nécessite un équipement spécialisé, des gens entraînés, et pour établir une telle souris, il faut se rendre compte qu'il faut plusieurs mois. Donc ce n'est pas une approche très facile, mais qui est largement utilisée actuellement. Alors quelles sont les caractéristiques d'un tel transgène? Donc d'une part, on peut utiliser donc ces mini-gènes pour exprimer une protéine donc qui va être codée par ce qu'on appelle un ADN-C. Et donc, si on veut exprimer cette protéine, il faudra utiliser une séquence d'ADN qu'on appelle séquence promotrice, comme je vous le disais au départ, qui va permettre de diriger l'expression de cet ADN-C dans certaines cellules. Ou d'autre part, ce qu'on voudra faire, c'est étudier le promoteur, c'est-à-dire savoir cette séquence d'ADN où elle permet d'exprimer la protéine en question, essayer de comprendre quelles sont les régulations impliquées pour l'expression d'une protéine. Je ne vais pas rentrer dans les détails. En tous les cas, donc, la structure générale d'un transgène est la suivante. Et je pense que vous aurez un exposé dans quelques jours qui vous donnera beaucoup plus de caractéristiques relatives donc à la transgénèse classique. Alors, comme je vous le disais, donc, le promoteur, en fait, dans un grand nombre de cas, on voudra déterminer justement, étudier donc les régions promotrices pour déterminer dans quel type cellulaire ce promoteur est actif, donc dans quel type cellulaire on va produire une protéine X. Et donc pour ce faire, pour pouvoir suivre rapidement et facilement l'activité de ce promoteur, on va utiliser un mini-gène qu'on appelle gène rapporteur, donc des protéines qui codent pour des enzymes dont l'activité est facilement détectable. D'autre part, dans un certain nombre de cas, on voudra produire une protéine dans un type cellulaire donné Et donc, on va utiliser un promoteur caractérisé pour produire, par exemple, une protéine qui a potentiellement une activité impliquée dans le cancer, une protéine qui a une activité enzymatique, pour pouvoir étudier la fonction de cette protéine. Et donc, les promoteurs qu'on va utiliser, c'est donc des séquences d'ADN qu'on a définies au départ, on connaît les caractéristiques, qui vont donner une spécificité cellulaire ou qui vont permettre une expression dans toutes les cellules d'un organisme ou même de pouvoir induire l'activité de cette protéine en utilisant des promoteurs caractérisés, donc comme les promoteurs de la méthylothionine, de la protéine du choc thermique, etc. Donc cette technologie donc, permet donc d'insérer et d'exprimer une protéine voulue chez la souris, mais ne permet pas d'invalider l'expression du gène endogène. Et donc plus récemment, à partir de la fin des années 80, une autre technologie a été mise en place qui permet maintenant de remplacer un gène par un gène muté, par des techniques donc de recombinaison homologue. Alors, le schéma général, et donc on a donc notre noyau avec l'ADN, et l'idée est non pas d'insérer cet ADN au hasard dans l'ADN, mais de remplacer le gène sauvage par le gène muté. Et ceci est une opération délicate, comme je vous l'ai expliqué, la complexité du génome est très très grande, et donc il faudra cibler spécifiquement le gène en question. Alors, ceci nécessite également d'abord d'isoler le gène qu'on va vouloir muter, de le cloner, de le modifier pour introduire une mutation, et d'autre part, étant donné que les événements de recombinaison homologue, c'est-à-dire de remplacement, ces fréquences sont très très faibles, il faudra utiliser des astuces, c'est-à-dire des moyens de sélection pour sélectionner les cellules déjà qui ont intégré de l'ADN et après pouvoir identifier les cellules dans lesquelles cet événement a eu lieu au niveau du gène cible. Et cette recombinaison homologue donc, va modifier une cellule et à partir de cette cellule, on voudra reconstituer un animal portant la mutation. C'est-à-dire introduire cette mutation dans la lignée germinale de l'animal. Et donc pour ce faire, des cellules de l'embryon précoce ont été isolées et ces cellules, on va essayer de zoomer déjà. Donc ces cellules, on appelle ces cellules les cellules ES, des cellules embryonnaires souches, qui ont la caractéristique intéressante de pouvoir être cultivées, manipulées in vitro, donc elles dérivent d'un embryon précoce de souris. Ces cellules, on va pouvoir introduire de l'ADN dans ces cellules, les caractériser, voir effectivement si l'ADN a été intégré au hasard dans le génome, ou bien au niveau du gène cible. Et après, ces cellules, une fois modifiées, identifiées, vont pouvoir être réintroduites dans cet embryon précoce. Et à partir de cet embryon précoce, on va pouvoir générer un animal qui va porter à la fois des cellules modifiées et des cellules non modifiées. Et en sélectionnant les animaux où on a intégration de ces cellules modifiées dans la lignée germinale, on va pouvoir établir un animal portant spécifiquement cette mutation. Donc je vais résumer tout ça sous la forme d'un schéma. Et donc là, pour vous montrer un petit peu la complexité pour réaliser un tel type de souris. Donc comme je vous le disais, on veut cibler spécifiquement un gène. Donc on isole ce gène, on le manipule in vitro pour introduire la mutation désirée. Donc on sait exactement la mutation qu'on introduit dans le gène cible. Ensuite, on va introduire ce gène cible dans les cellules ES dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ces cellules ES, on va avoir un grand nombre de cellules qui vont intégrer de l'ADN. On va éliminer déjà toutes les cellules où l'intégration n'a pas eu lieu grâce au marqueur de résistance. Donc on fait une sélection pour sélectionner uniquement les cellules qui ont intégré l'ADN modifié. Et après, il faudra trier ces cellules pour isoler celles dont l'intégration a eu lieu au niveau du gène cible et non au hasard. Donc pour ce faire, on extrait l'ADN de ces cellules et par des techniques de génotypage, on arrive à identifier ce type de cellules. Une fois qu'on a identifié ces cellules, on va donc les réinjecter dans un blastocyste, c'est-à-dire donc cette structure embryonnaire, et on va réimplanter ce blastocyste dans une souris pseudogestante. Donc des sourisseaux vont naître, et on va pouvoir identifier les sourisseaux qui dérivent en partie de cellules modifiées par l'apparition de taches brunes sur le pelage, étant donné que ces cellules ES sont dérivées de souches de souris qui ont un pelage différent de la souche de souris utilisée pour le prélèvement des blastocystes. Donc on a donc des animaux chimériques qui portent à la fois des cellules embryonnaires de type sauvage, mais également des cellules portant la mutation. On va ensuite croiser ces souris avec des souris de type sauvage, étant donné, sans rentrer dans les détails, que le caractère donnant cette couleur qu'on appelle agouti est dominant, on va pouvoir, lorsque la souris elle était hétérozygote, identifier en sélectionnant les animaux de couleur agouti, les animaux qui portent maintenant la mutation qu'on a introduite dans la lignée germinale, sur donc un des allèles du gène. Et en croisant ces souris entre elles, on va avoir des souris qui portent la mutation sur les deux allèles. Donc, c'est réalisable. Il faut savoir cependant que pour obtenir une telle souris chez lesquelles on a modifié spécifiquement un gène, il faut un an à un an et demi. Donc, ce n'est pas une approche très rapide, mais c'est une approche très puissante, étant donné que spécifiquement, on arrive à modifier n'importe quel gène qu'on a préalablement choisi. Donc ces deux approches, soit de transgénèse classique, soit de mutagénèse ciblée, qu'on appelle également knockout, sont des technologies largement utilisées maintenant dans les laboratoires. Et ici, j'ai trouvé dans une revue le nombre de souris dont on a invalidé un gène. Donc, comme vous pouvez le voir ou pas le voir, certainement. Focus. Bon, c'est pas grave. Zoom. Bon, c'est pas grave. Donc, dans les années 94, on avait environ 150 gènes invalidés, et actuellement, on doit être à plus de 1000 gènes invalidés avec la technique donc, de knockout, et la transgénèse également poursuit son chemin. Donc ces deux types de manipulation sont de plus en plus utilisés pour étudier la fonction des gènes. Donc pour résumer, donc cette technologie de knockout ou d'invalidation de gènes permet donc de remplacer un gène donné dans toutes les cellules d'un animal, à partir donc de l'œuf fécondé jusqu'à l'âge adulte. Alors ceci à la fois est très intéressant, mais renferme également un certain nombre de limitations. D'une part, lorsqu'on invalide un gène, il se peut que ce gène soit essentiel pour le développement embryonnaire, et donc on ne pourra jamais produire de souris adultes portant la mutation et ne pourra donc pas étudier la fonction de ce gène chez l'adulte. D'autre part, dans un certain nombre de cas, en invalidant un gène, on n'observe aucun phénotype. Et ceci peut être expliqué, d'une part, par des compensations au cours du développement embryonnaire, c'est-à-dire lorsqu'on invalide un gène dans la lignée germinale, d'autres gènes éventuellement peuvent compenser la fonction de ce gène, notamment dans le cas de gènes qui sont des membres de grandes familles de gènes qui ont des fonctions similaires. D'autre part, lorsqu'on observe une anomalie dans un organe ou dans un type cellulaire donné, il est difficile de savoir si cette anomalie, en fait, est liée à l'absence du gène dans cet organe ou l'absence du gène dans une structure embryonnaire qui empêche la formation de cet organe, ou bien même chez l'adulte. On peut imaginer, par exemple, que ce gène va produire un facteur de croissance indispensable à la formation de cet organe. D'autre part, pour les gènes qui ont des fonctions très très larges, au niveau d'un grand nombre d'organes, lorsqu'on invalide donc ce gène, on va avoir des effets très très larges et il sera difficile de savoir au niveau d'un type cellulaire quelle est la fonction de ce gène. Et finalement, c'est ce qu'on aimerait savoir, c'est savoir vraiment spécifiquement quelle est la fonction du gène. Enfin, cette technologie ne permet pas d'établir des modèles, de bons modèles animaux de maladies humaines qui sont causées par des mutations somatiques, c'est-à-dire chez l'adulte, comme par exemple des cancers, qui sont une accumulation de mutations, étant donné qu'on invalide donc le gène, donc on réalise la mutation dans la lignée germinale. Et donc un des grands challenges actuellement est de pouvoir justement arriver à spécifiquement muter le gène quand on veut et où on veut chez la souris. Donc d'arriver à avoir une souris qui est normale jusqu'à l'âge adulte et donc pouvoir invalider ce gène à volonté. Et là, je vais vous exposer les dernières avancées technologiques dans le domaine pour essayer de vous faire comprendre ce qu'on va pouvoir faire dans les années à venir à l'aide de la génétique. Et là, ça ne va pas être facile. Et donc, je vais essayer de vous montrer qu'en combinant des activités donc d'une protéine d'un bactériophage, c'est-à-dire bactérien, avec la technique de recombinaison homologue classique, on va pouvoir maintenant spécifiquement cibler un gène à l'âge adulte dans un type cellulaire 2. Donc le principe est le suivant. Les chercheurs ont montré donc, que cette protéine qu'on appelle cré-recombinase reconnaît spécifiquement des petites séquences d'ADN de 34 paires de bases que je vais représenter en fait par une petite flèche qui s'appelle CytLoxP. Alors, cette molécule, en présence donc d'un morceau d'ADN, donc qui est représenté ici, qui contient deux CytLoxP, va exciser, va donc enlever ce morceau d'ADN qui est situé entre ces deux séquences, et on va arriver à une molécule qui comporte uniquement un CytLox sans ces séquences. Donc c'est un outil donc très intéressant, car très spécifique. Donc parmi, donc, je vous ai dit, le génome est d'une complexité énorme. En introduisant ces petits signaux dans le génome, on va pouvoir spécifiquement travailler sur cette région du génome. Alors, je vous montrerai tout à l'heure comment on va pouvoir introduire ces petites séquences, parce que le problème après, ça va être d'introduire ces petites séquences d'ADN dans le génome donc, complexe. et d'autre part, comment on va pouvoir donc arriver à avoir la recombinase qui va faire donc cette délétion dans les types cellulaires dont on veut réaliser la mutation. Et donc, une fois qu'on aura introduit ces petits éléments d'ADN dans le génome, il faudra donc contrôler l'expression de la recombinase créée. Alors, d'une part, donc par les techniques de transgénèse classique, comme je vous l'ai montré au départ, en utilisant des promoteurs spécifiques, on va pouvoir diriger l'expression de cette molécule dans un type cellulaire donné ou induire l'expression de cette molécule à l'aide d'inducteurs en utilisant des promoteurs qu'on appelle inductifs. Et ceci va nous permettre d'avoir un contrôle soit spatial, soit temporel de l'apparition de la mutation. L'idéal étant d'arriver à un contrôle spatio-temporel pour justement pouvoir induire la mutation où on veut, quand on veut, chez la souris. Alors ce système effectivement marche chez les souris. Les expériences ont permis de montrer qu'effectivement, lorsqu'on introduit donc ces séquences qu'on appelle LOXP dans le génome de la souris, en réalisant une autre souris transgénique qui va exprimer la recombinase créée, on va pouvoir croiser ces souris, obtenir des souris qui portent à la fois les deux gènes modifiés, et si cette pré-recombinase donc exprimée dans toutes les cellules, de la souris qui portent les deux transgènes, on va avoir donc délétion de ces séquences d'ADN et donc mutation spécifique de ce gène alors que tous les autres gènes restent intacts. Alors donc, bien sûr, ce qu'on veut, c'est éventuellement réaliser cette modification uniquement dans certains types cellulaires. Alors on va par exemple vouloir inactiver un gène X uniquement dans un type de cellule, par exemple des cellules lymphoïdes. Donc on va utiliser un promoteur pour diriger l'expression de la recombinase créée spécifique de ce type cellulaire. De nouveau, on va croiser ces deux souris transgéniques. Et dans les cellules où on a expression de la recombinase, on va avoir mutation du gène, alors que dans toutes les autres cellules, le gène restera intact. Donc ceci a été démontré, le système marche, et de cette façon, on peut muter donc spécifiquement un gène dans un type cellulaire donné. En utilisant maintenant un promoteur, donc une séquence régulatrice dont on peut induire l'expression. Même chose, donc on va croiser ces souris, les souris qui vont porter à la fois le gène cible et le gène qui porte ce promoteur. Aucune activité, donc aucune délétion de ces séquences n'aura lieu en l'absence d'inducteur, mais à un moment donné, on va pouvoir traiter cette souris avec un inducteur qui va permettre l'expression de la recombinase qui va reconnaître les séquences cibles et muter le gène. Donc sans rentrer dans les détails, cette technologie également marche, mais un des problèmes, et donc une avancée considérable donc, dans le domaine, au lieu d'avoir maintenant la mutation dans toutes les cellules de la souris, on va pouvoir avoir la mutation uniquement dans un type cellulaire donné, mais ne contrôle pas le moment d'apparition de la mutation, ou bien alors on va pouvoir induire la mutation à un moment donné, mais on ne contrôle pas les types cellulaires dans lesquels on va avoir cette mutation. Pour essayer Donc d'arriver donc à induire spécifiquement la mutation dans un type cellulaire donné et à un moment donné, je vais vous relater des expériences que nous avons réalisées au laboratoire récemment. Et bon, je m'excuse auprès des non-spécialistes parce que là, ça va être un peu plus concentré sur vraiment les derniers avancements de la technologie. Donc, ce que nous avons réalisé, c'est pour contrôler en fait l'activité de cette recombinase, nous avons réalisé une protéine de fusion, c'est-à-dire nous avons créé un mini-gène constitué d'une part de la recombinase créée et d'autre part de séquences d'une autre protéine qui est en fait le récepteur humain des œstrogènes. C'est une molécule dont l'activité peut être induite par un ligand, donc une molécule qui n'a rien à voir avec la craie. Nous avons donc réalisé cette molécule chimérique et nous avons pu montrer donc cette molécule que je vais appeler CRE-ERT, qu'en l'absence d'inducteur, cette molécule est totalement inactive. C'est-à-dire lorsqu'elle est en présence d'un morceau d'ADN qui contient des sites LOXP, il ne se passe rien. Par contre, en traitant les cellules donc, qui portent ce mini-gène et qui expriment cette recombinase, également ceci a été réalisé par transgénèse, avec un inducteur, c'est-à-dire le ligand qui fixe cette molécule, on peut induire l'activité de cette recombinase et donc déléter spécifiquement, donc modifier spécifiquement ce gène en délétant les séquences. Donc cette molécule contient en fait une mutation qui empêche la fixation des ligands endogènes de la souris, mais qui permet la fixation de ligands synthétiques tels que le 4-hydroxytamoxifène, afin d'éviter par la suite chez la souris des problèmes d'interférence avec des ligands endogènes. Et là, je vais vous montrer, bon, les couleurs sont vraiment très mauvaises, donc ça ne va pas être très, très visible. C'est la seule expérience en fait, que je vais montrer. Nous avons donc réalisé des souris transgéniques qui expriment à la fois cette recombinase CRE-ERT. Et pour tester cette activité, nous avons utilisé un autre transgène qui permet d'exprimer une activité enzymatique. Donc c'est un gène classiquement utilisé en transgénèse, le gène LACZ, qui permet de produire une coloration bleue à l'aide d'un substrat. Mais cette activité enzymatique ne pourra être produite qu'après excision, donc délétion des séquences qui se trouvent entre le promoteur qui dirige l'expression de ce gène et le gène rapporteur LACZ. Alors, tout d'abord, nous avons vérifié dans quel type cellulaire, en prenant la peau, par exemple, comme modèle, la recombinase était exprimée. Là, on a des techniques de détection. Malheureusement, on ne le voit pas, mais en fait, je vais vous décrire la situation. La recombinase est exprimée uniquement dans les cellules de la couche supérieure de la peau. Lorsqu'on prélève une biopsie de queue, avant injection au tamoxifène, on n'a pas de coloration bleue dans l'épiderme. Par contre, dès le premier jour après le traitement au tamoxifène de cette souris, on voit que spécifiquement les cellules de la couche supérieure de l'épiderme expriment cette activité enzymatique, et à 3 jours, toutes les cellules de cette couche sont bleues, alors que les autres cellules qui n'expriment pas la recombinase n'expriment pas cette activité enzymatique. Donc ceci démontre qu'effectivement, par simple injection de tamoxifène et en réalisant les modifications génétiques nécessaires, on peut spécifiquement réaliser une mutation dans un type cellulaire donné, choisi au préalable, et donc sur un gène donné, et le gène qui va porter ces séquences LOX. Alors vous imaginez que ce n'est quand même pas une opération aisée. Et donc, comment on va introduire ces séquences LOX qui vont permettre de cibler le gène? Alors, en admettant que ceci est le gène que vous voulez muter, il va donc falloir tout d'abord isoler ce gène, le modifier in vitro en insérant donc ces petites séquences d'ADN à un endroit du gène qui ne va pas altérer l'expression de ce gène. Et ceci va donc être réalisé par des techniques de recombinaison homologue dans les cellules ES, dans les cellules embryonnaires. On va identifier les cellules qui ont intégré de l'ADN en insérant également un marqueur de résistance sur ce mini-gène, qui lui-même va être encadré de sitlox, ce qui va permettre, une fois qu'on aura identifié les cellules ES dont le gène sauvage a été remplacé par le gène muté, en réalisant une action transitoire de la recombinase créée, de déléter spécifiquement ces séquences, et donc arriver à un mini-gène dans la cellule embryonnaire qui porte, dont la seule modification est l'insertion de ces deux sitlox. À partir de cette cellule ES, comme je vous l'ai expliqué au début de l'exposé, on va pouvoir réaliser une souris qui va porter donc ce gène portant ces sitlox sans aucune autre modification. Donc schématiquement, voici la souris dont on a modifié spécifiquement un gène. Lorsqu'on voudra maintenant invalider l'expression de ce gène spécifiquement dans un type cellulaire donné, il va falloir exprimer donc cette recombinase chimérique dont l'activité est inductible spécifiquement dans ce type cellulaire. Bon, ça pourrait être le cœur, le foie, le muscle, pour des raisons de place, ça va être représenté par la partie postérieure de l'animal. Donc on va utiliser un promoteur spécifique qui a une spécificité cellulaire. Donc on va pouvoir croiser ces souris, donc obtenir des souris qui portent à la fois les deux transgènes. En l'absence d'inducteur, ces sitlox ne vont pas être connus et donc ces séquences ne vont pas être délétées. Et lorsqu'on aura décidé d'invalider le gène, on va traiter cette souris donc à l'aide de notre inducteur, dans l'occurrence le tamoxifène, et uniquement dans les cellules exprimant la recombinase, on va avoir activité de cette protéine qui va donc spécifiquement éliminer les séquences localisées entre ce gène, et donc abolir l'expression de ce gène, et ainsi on pourra étudier spécifiquement la fonction de ce gène dans le type cellulaire choisi. Donc en résumé, nous avons donc maintenant des outils qui nous permettent donc spécifiquement de muter un gène donné dans un type cellulaire donné à un moment donné, soit chez l'adulte. Nous avons également réalisé des expériences qui montrent que ceci est réalisable également au cours du développement embryonnaire. Donc cette technologie a également d'autres applications. On va pouvoir induire spécifiquement donc l'expression d'un transgène. Donc ceci représente en fait ce qui correspond à ce que je vous montrais tout à l'heure avec le gène LAXN. On peut greffer ici n'importe quel gène d'intérêt. Ça peut être un oncogène, ça peut être un gène qui a une activité enzymatique quelconque pour étudier sa fonction. Et donc, en l'absence d'activité de la recombinase créée, ce gène ne va pas être exprimé. Et à un moment donné, on va pouvoir activer à l'aide de ce ligand cette recombinase, déléter ses séquences et donc induire l'expression de ce mini-gène. D'autre part, en greffant ici un gène toxique, par exemple, ce gène ne sera pas exprimé tant que ces séquences ne seront pas délétées. On peut utiliser par exemple un gène de toxine diphtérique. Ensuite, à un moment donné, déléter ces séquences par addition de ligands, donc exprimer ce gène dans un type cellulaire donné, et donc tous les descendants de ces cellules vont être éliminés chez l'organisme et pouvoir étudier en fait le rôle de lignée cellulaire. Bon, d'autre part, en utilisant un marqueur qui va permettre de tracer les cellules, on va pouvoir définir les descendants d'une cellule au cours du développement. D'autre part, système inverse, à un moment donné, en encadrant le gène lui-même de Sitlock, sans pouvoir abolir à volonté l'expression de ce gène avec une très forte régulation. Donc, à l'heure actuelle, nous avons donc un certain nombre d'outils à notre disposition pour manipuler à volonté le génome, donc soit par transgénèse classique, par recombinaison homologue, et maintenant par mutagénèse somatique conditionnelle. Alors j'aimerais quand même mentionner que ces techniques sont sophistiquées et qu'elles reviennent assez chères. Et j'aimerais également mentionner qu'actuellement, la souris est vraiment un organisme de choix pour ces études génétiques, notamment grâce à ces techniques qui sont notamment la recombinaison homologue, qui est unique pour la souris. Voilà. Il y a quand même un certain nombre de limitations liées à l'utilisation de la souris. En effet, le phénotype qu'on obtient suite à l'invalidation ou la surexpression d'un gène n'est pas toujours identique à la maladie génétique. Et ceci peut être lié à des voies biochimiques différentes ou une redondance qui existe chez la souris par rapport à l'homme. En d'autre part, clairement, l'organisation du cerveau n'est pas similaire identique chez la souris et l'homme. Et donc, on peut avoir des voies de signalisation qui vont être soit absentes, soit différentes. D'autre part, pour l'étude de maladies dégénératives, la souris n'est pas forcément un excellent modèle, étant donné que la durée de vie est beaucoup plus courte. Et enfin, les techniques de transgénèse ont un certain nombre de limitations intrinsèques. Notamment, lorsqu'on utilise un mini-gène, on ne va pas forcément exprimer l'ADN C où on veut, étant donné qu'on peut perdre des éléments de régulation en utilisant l'ADN C. D'autre part, on peut également, dans certains cas, avoir une expression qui ne reproduit pas forcément l'expression endogène. Ceci est lié à l'utilisation de séquences promotrices qui peuvent être incomplètes. Et enfin, le site d'intégration du transgène peut induire des modifications de l'expression proprement dite du transgène. Enfin, l'introduction de la mutation dans la lignée germinale donc, a également un certain nombre de limitations, comme je vous l'ai dit, étant donné qu'on n'a pas de contrôle spatial ou temporel de l'expression du transgène. Et donc, d'où l'importance de ces nouveaux développements des techniques de transgénèse qui devraient permettre maintenant de réaliser une mutagénèse somatique conditionnelle, soit d'invalidation de gènes, soit de surexpression. Donc là, je vous ai principalement parlé de la souris, mais il faut voir également que la transgénèse a d'autres applications. Notamment, on peut produire des molécules d'intérêt biologique, et dans ce cas, on va utiliser des organismes plus grands, comme le mouton, le lapin et la vache, et je pense que vous allez avoir un exposé dans les prochains jours, le professeur Houdbin qui va vous en dire un peu plus sur l'utilisation de ce type d'animaux. Mais il faut savoir que, pour le moment, on a à notre disposition uniquement les techniques de transgénèse classique et pas de recombinaison homologue dans ce type d'organisme. D'autre part, donc la thérapie génique, là également, je pense que vous allez avoir des exposés, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais l'idée est donc d'introduire des gènes dans les lignées somatiques et non dans les lignées germinales. Et pour ceci, il va falloir des vecteurs de transfert de gènes. Et dans ce cas, on va utiliser des vecteurs adénoviraux ou rétroviraux, mais on peut également imaginer que dans l'avenir, on va pouvoir remplacer chez l'homme des gènes dans les cellules somatiques, donc par recombinaison homologue dans des cellules somatiques souches qui vont être prélevées, donc manipulées in vitro et réinjectées au patient. Et dans ce cas, on pourra corriger spécifiquement une mutation chez le patient. Je pense que je vais m'arrêter là. Je vous remercie et je suis prêt à répondre à toutes les questions.
Nous allons passer aux questions. Une là et une là. Alors les micros, où sont les micros ?
Le micro ne marche pas.
Bon, vous m'entendez bien ?
Attendez, le micro ne marche pas.
Bon, vous venez. Il y a toujours un problème avec ça.
Voilà, c'est ouvert. Vous venez de soulever un grand espoir pour les personnes handicapées, le mental, je pense aux autistes, etc. Parce que j'avais une question. J'avais écrit, mais j'ai fait tomber le papier. Est-ce que il sera donc... Dernièrement, vous avez dit un truc super, qui n'est pas du tout la science-fiction pour moi. On peut lutter ou pas à long terme, à moyen terme, contre les maladies génétiques pour les personnes handicapées, mentales, autistes et autres.
Le problème, c'est que pour un certain nombre de... Comme j'ai essayé de l'expliquer, en fait, l'information, c'est donc l'ADN, le gène. Et à partir du moment où on aura accès, où on comprendra la fonction de ce gène, on aura plusieurs moyens. D'une part, donc, c'est la thérapie génique, donc c'est toutes ces nouvelles technologies. Mais il y aura également, si on connaît la fonction du gène, de la protéine, des possibilités d'intervenir pharmacologiquement. Le problème, c'est de connaître la cible, c'est savoir sur quelle molécule pharmacologiquement, c'est-à-dire trouver un médicament, une drogue, qui va permettre soit de bloquer une molécule qui éventuellement est exprimée, donc est produite alors qu'elle ne le devrait pas, ou bien alors, par exemple, activer une autre molécule qui va supplémenter. Le problème, c'est de savoir actuellement, lorsqu'on est en face d'une maladie, dans de nombreux cas, on ne connaît absolument pas la cible. On observe une maladie, mais on ne sait pas sur quoi il faut interférer. Et donc toute l'idée, c'est d'utiliser justement la souris pour essayer de modéliser ça. Et donc, la recherche fondamentale d'une part, qui forcément ne s'attaque pas à une maladie donnée, mais qui étudie les gènes. Et comme je vous l'ai dit, on va avoir accès sous très peu à l'information générale des gènes. On va connaître la séquence, mais on ne connaîtra toujours pas la fonction. Donc le grand challenge, ça va être de trouver la fonction de ces gènes. Et lorsqu'on a la chance de pouvoir reproduire une maladie en inactivant en gène ou en surexprimant en gène chez la souris, on saura sur quoi il faut travailler. Donc éventuellement, il sera plus facile pour trouver des réponses à ce genre de problème.
Merci. Ici.
Bonjour. Ça marche ou pas ? Bonjour.
Bon, je crois que ça marche.
Ça marche ?
Bon. Oui.
Ma question est à propos de la recombinase crée. Est-ce que vous avez présenté sur le modèle animal l'utilisation pour enlever des gènes de résistance qu'on utilise comme marqueur pour, quand on a fait une manipulation de transgénèse ? Mais chez les végétaux, on a souvent présenté l'utilisation des marqueurs de résistance, des gènes de résistance aux antibiotiques comme marqueur, comme un frein au développement des plantes transgéniques. Est-ce que cette recombinase crée marche chez les végétaux ?
Absolument. Et c'est pour ça le problème, je crois qu'à la limite, ce problème de transgénèse, et notamment ce problème, est d'une certaine façon un faux problème. C'est vrai que les industriels actuellement essayent de pousser, mais il y en a les outils technologiques pour s'en débarrasser. Donc ce n'est pas vraiment un problème scientifique ou technologique, je pense que c'est un problème économique. Ils veulent mettre sur le marché très rapidement maintenant ces produits, mais actuellement on a les outils pour éliminer ce genre de problème. Donc de toute façon, je pense que dans les années à venir, on aura justement ces plantes transgéniques sans ce marqueur de sélection. Mais bon, il faut attendre un petit peu parce que là, c'est vraiment quand même ce que je vous ai montré. Justement, j'ai essayé, c'est peut-être un peu ardu et je m'en excuse auprès d'un certain nombre de personnes, de montrer les potentialités, vraiment les dernières techniques qu'on a pour le moment à disponibilité dans les laboratoires. Mais je pense que ça va se diffuser très rapidement et donc qu'elles vont être largement utilisées dans la suite.
Par exemple, sur la transgénèse végétale, bien sûr, le système Ferox marche chez les végétaux aussi. Et en plus, maintenant, la commission de génie biomoléculaire chargée justement de l'autorisation d'expérimentation au champ des plantes transgéniques va exiger qu'il n'y ait plus de marqueurs de type résistance aux antibiotiques. Alors non seulement on sait s'en débarrasser, mais on a aussi dans nos tiroirs, dans les laboratoires, des alternatives qui ne sont pas des gènes de résistance aux antibiotiques. Donc effectivement, maintenant, disons que c'est un problème qui est dépassé.
Merci.
Alors c'est à la fois, bon, on peut utiliser la craie, mais il y a d'autres systèmes où on peut effectivement utiliser ça. Bon, par exemple, pour la craie, il va y avoir un problème économique, étant donné qu'il y a un brevet sur la recombinase craie. Donc les industriels, pour le moment, s'ils peuvent éviter, ils vont éviter, bien sûr, parce que sinon, ils auront des royalties à payer et ce genre de choses. Mais je pense que c'est un faux problème. Technologiquement, on peut le faire et on le fera.
Merci. Une autre question là-bas, et puis après là.
Je ne peux pas répondre à cette question.
Bon,
Je ne suis pas un généticien de population, etc. Donc, je ne peux pas vous répondre à cette question.
Oui, je. Oui.
Micro, on n'entend pas.
Alors, votre discours est anthropocentré. Est-ce que vous pensez à la souffrance des animaux? Est-ce que vous tenez compte de leur souffrance?
Non, je pensais à une bonne question. Je pensais à une bonne question, il faut en parler. Bon, je ne suis pas la meilleure personne pour répondre à cette question, mais je vais quand même l'aborder. Il y aura Axel Kahn qui va vous parler des problèmes d'éthique, etc. Bon, j'aimerais quand même dire que dans les laboratoires, on prend un maximum de précautions. D'une part, il y a des comités d'éthique qui sont mis en place. Et je pense que c'est vrai qu'il faut effectivement qu'on ne fasse pas tout et n'importe quoi dans les laboratoires. C'est très important. Je pense que nos animaux sont vraiment très, très bien traités parce qu'il faut voir le prix d'un tel animal. Donc, on n'a pas envie de maltraiter les animaux, d'une part. Et d'autre part, tout ce que je vous ai montré, la transgénèse au départ. Donc, un problème. Je pense qu'il faut séparer le problème de transgénèse et d'expérimentation animale. La transgénèse, l'expérimentation, tous les animaux, enfin en général, les animaux qu'on produit, qu'on va analyser, on va réaliser sur des animaux euthanasiés. On va regarder quel est le phénotype de l'animal, mais on ne fait pas d'expérimentation directe sur les animaux, très rarement. Et lorsqu'on le fait, on le fait dans des conditions le plus acceptables possible. Le problème, c'est de savoir effectivement en général, est-ce qu'il faut passer par là, est-ce qu'on a des voies de secours. Moi, je pense que lorsqu'on est en phase de maladie, c'est important de passer sur des modèles animaux pour essayer de comprendre la fonction de gène. Mais c'est un problème général. Je pense qu'effectivement, il faut le débat. Mais moi, je ne suis pas la personne la mieux placée pour effectivement apporter les réponses à ces problèmes.
Est-ce que vraiment on est sur des rails ? La question de fond, c'est est-ce que vous dormez bien la nuit ? Parce que non seulement nous n'avons pas la permission des souris, mais nous n'avons pas non plus la permission des êtres humains. Pas même ceux de la société qui exercent ces recherches. Et pas même celles des politiciens qui n'y comprennent rien. Alors, il y a quelques décennies, des généticiens se sont réunis pour faire ce qu'on a appelé un moratoire. C'est-à-dire, on est devant des questions graves et des risques graves, et nous ouvrons une boîte de Pandore pour laquelle nous n'avons pas de réponse. Mais ça n'est pas seulement à nous de donner des réponses. Et puis le temps a passé, et puis le train s'est remis sur ses rails parce qu'il y a des gros intérêts en jeu, et les recherches ont repris, la preuve, les résultats auxquels on arrive actuellement. D'où ma question, est-ce que, puisque vous travaillez le jour avec d'excellents résultats, est-ce que la nuit, vous avez le temps de penser aux conséquences que l'on ne subit pas encore maintenant? On est vraiment à l'orée de quelque chose de gigantesque dans l'utilisation de la génétique. À des fins humaines et médicales, je dirais, c'est vite dit, parce que les coûts que ça représente et la méthodologie que ça représente est sans commune mesure avec les économies en vie humaine qu'on peut faire dans d'autres domaines.
Merci. S'il vous plaît.
Ok. Moi, je trouve que ça illustre parfaitement qu'il faudrait avoir plus de réunions de ce type pour effectivement discuter de ce genre de problème, pour informer à la fois le public de ce qui se passe dans les laboratoires et la société, justement, de discuter en connaissance de cause ce qui se passe. Alors, j'aimerais savoir, bon, moi, je peux vous dire que moi, je dors très bien la nuit, parce que j'estime, effectivement, si on va pouvoir apporter une réponse à des gens qui souffrent, on peut proposer aucun traitement. Moi, je pense que c'est une bonne chose. C'est vrai que ça coûte peut-être cher. Mais allez voir les malades et dites-leur, on n'a rien à vous proposer. Dans 10 ans, on n'aura toujours rien à vous proposer. Je pense que ce n'est pas une situation facile. Donc, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est... J'ai essayé vraiment d'aller à la pointe de la technique. Qu'est-ce qui vous dérange le plus? Pourquoi vous dites qu'il y a un danger, il y a... C'est ça que j'arrive pas vraiment à évaluer. Quel est votre point de vue?
Le danger, ça n'est pas vous. Mais à partir du moment où cette technique devient disponible,
oui.
Il n'y a pas que la mentalité que vous avez, ou contre certains scientifiques, je ne dirais sûrement pas tous, parce qu'on a vu l'utilisation des scientifiques il y a une cinquantaine d'années. Et ça nous pend au nez. Ça nous pend au nez au moins dans 5 endroits actuellement sur la planète. Et des recherches actuellement sont faites dans ce sens. Alors ça n'est pas parce qu'actuellement on nous fait des très belles conférences sur une certaine utilisation de la science qu'il n'y a pas d'autres utilisations de la science.
Ok, donc la seule façon c'est d'interdire la science. Ok.
Je veux dire, non, pas du tout.
Si, mais comment vous voulez diriger donc?
Il y a la nécessité d'un contrôle social,
oui.
De
voilà.
La science.
Mais ça existe.
Merci, merci. Merci.
L'éducation du public n'est pas faite.
S'il vous plaît.
Et la décision politique n'est pas faite.
Merci beaucoup. On va passer à une autre question.
On va avoir, vous aurez Axel Kahn dans quelques jours.
Il y aura un
meilleur endroit pour parler de ça.
Voilà.
Mais je pense qu'effectivement, c'est un problème qu'il faut soulever. Il faut soulever.
S'il vous plaît, madame, s'il vous plaît, nous avons une question ici, s'il vous plaît.
Oui.
Non, merci.
Je suis tout à fait d'accord qu'il faut un contrôle. Alors, il faut un contrôle politique. Et
allez-y.
Ça existe.
Allez-y, monsieur.
Oui. Je voulais savoir si un jour vous pensez que la science sera assez avancée pour programmer à partir des 4 bases des gènes complètement nouveaux, en fait, pour créer de nouvelles caractéristiques totalement neuves et pas de prendre des gènes et les déplacer dans l'ADN existant.
Je dirais ça, on le fait en permanence. Je veux dire, la recombinase, par exemple, le CRE-ERT, c'est une molécule totalement chimérique qui n'existe pas dans la nature, qu'on a construite à volonté en fonction des caractéristiques de départ de différentes molécules. Donc c'est clair, et on peut synthétiser de l'ADN à l'aide d'une machine. Donc à partir du moment où on connaît l'alphabet de 4 lettres, on sait le synthétiser, donc on peut créer le gène qu'on veut. Le problème, c'est de trouver la fonction. Après, on peut altérer une fonction en modifiant spécifiquement certaines séquences. Donc ça se fait actuellement déjà.
Oui, une question là.
Je voulais vous demander simplement... Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des risques pour les organismes génétiquement modifiés? Ouais, je suis là. Et par exemple, ils veulent installer des gènes de stérilité. Donc en fait, ça pourrait être transmis de génération en génération. Et donc, c'est des...
Ok.
Non, mais...
Non, non.
Il pourrait en fait, si c'est un gène récessif, justement, causer une partie un danger de...
Donc on parle bien de l'homme, hein, c'est bien ça.
Bon, justement.
J'entends pas, là.
Pas forcément pour l'homme, pour le blé ou le maïs, il me semble.
C'est vrai qu'il
y a des sociétés agroalimentaires qui voulaient installer des gènes de stérilité. Donc ils sont revenus en arrière parce que c'était des problèmes éthiques. Hein. Et donc là, on touche du doigt. Si on en vient à la même chose, si on peut le faire pour les plantes, on arrivera bientôt à le faire pour l'homme. Et donc on va faire des cobayes humains de certaines personnes. Qui seront pratiquement des esclaves stériles.
Alors, c'est vrai qu'on vient à un problème général d'éthique. Alors, moi, ce que j'ai essayé de dire en parlant notamment de la thérapie génique, etc., c'est que pour le moment, les seuls travaux envisagés sont sur des cellules somatiques, c'est-à-dire non pas dans les cellules germinales, donc déjà, ça ne va pas être transmis d'une génération à l'autre. Okay, donc première limitation. Et après, effectivement, bon, ça va être au comité d'éthique de définir ce qu'il faudra faire et ce qu'il ne faudra pas faire. Je ne sais pas si je peux apporter ça. Ça vous convient ou...
Une question là.
Oui. Oui, si on l'entend. Vous avez parlé des techniques permettant de modifier des gènes au niveau individuel, transgénèse, mutagénèse. Est-ce que ces techniques marchent pour plusieurs gènes simultanément? Et en fait, derrière cette question, sachant qu'il y a entre 100 000 et 150 000 gènes, est-ce que ça veut dire qu'on va devoir créer 100 000 à 150 000 souris knock-out pour comprendre l'ensemble du fonctionnement?
Peut-être même plus, je dirais. Parce qu'il va falloir faire des combinaisons. Mais c'est vrai que bon, l'idée actuellement, on modifie un gène donné, mais à partir du moment où ce sont des chromosomes différents, de toute façon, par croisement, on peut faire des combinaisons après. Pour voir une souris qui a un gène A, B, C, D modifié. Okay. Oui, éventuellement, on peut envisager qu'il faudra inactiver tous les gènes, mais pour comprendre la fonction, mais il faut dire... On arrive également, en faisant des alignements de séquences, de trouver des molécules qui se ressemblent, donc on peut prévoir la fonction de tel gène. Mais bon, techniquement, on peut inactiver plusieurs gènes en même temps, modifier plusieurs gènes en même temps, et sinon, par croisement, on peut arriver à des individus qui portent simultanément plusieurs mutations.
Une dernière question ici.
Est-ce que l'interprétation concernant la fonction du gène n'est pas plus facile si on s'adresse uniquement aux mutations somatiques et chez l'adulte?
Tout à fait. Mais je veux dire, ce que je vous ai montré... Le chercheur utilise toujours les techniques qu'il a à sa disposition. Cette technique qu'on vient de mettre au laboratoire, on est en train de la tester, de la valider, mais c'est vrai qu'à terme, c'est ce qu'on veut faire. Et c'est pour ça que nous, personnellement, dans le laboratoire, on a investi de gros efforts pour essayer de mettre au point, parce que clairement, c'est ça qui va apporter beaucoup plus de réponses que les autres. Mais ce n'était pas disponible jusqu'à présent, donc on a travaillé jusqu'à présent avec les outils qu'on avait pour essayer d'apporter des réponses, même partielles, quelquefois. Mais on est toujours lié à la technologie, aux outils disponibles, pour essayer d'apporter des réponses aux questions qu'on se pose.
Monsieur Metzger, merci. Thank you.